Merci papa pour ta présence. Merci parce qu'on peut te louer en toute liberté papa. À toi soit la gloire. Merci aussi à l'équipe de la louange de nous avoir guidés pendant ce temps. Et on va maintenant passer à un temps de message. Du coup, j'invite John et Marie à venir. Donc le message il sera séparé en deux parties. Qui seront présentés donc par deux responsables du groupe de jeunes, du coup John et Marie. Et quand il y a des nouvelles personnes au groupe de jeunes, on a l'habitude de faire un petit tour de présentation, puis on dit toujours un petit fait sur nous. Donc là, je vous laisse vous présenter, dire votre prénom, ce que vous faites dans la vie, et puis votre livre de la Bible préféré, si ça va pour vous.
Alors moi, c'est Marie. Je suis travailleuse sociale, je travaille avec des enfants dans un foyer de la protection de l'enfance sur Yverdon et je suis monitrice du groupe de jeunes depuis août, c'est ça, depuis août. Et mon livre préféré de la Bible, c'est les psaumes. C'est mon livre phare, c'est mon livre coup de cœur, c'est si je ne sais pas quoi lire, je lis des psaumes. J'ai commencé à lire la Bible par les psaumes, voilà, pour moi c'est les psaumes.
Trop bien. Moi, c'est Jonathan, je suis enseignant primaire ici au MAI. Et c'est dur de choisir un livre, mais si je devais en choisir, ben, je choisirais Jean, je pense, par la façon dont il explique la vie de Jésus, les informations qu'il y a aussi en plus, notamment la discussion avec Nicodème ou toutes des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment parlant et puis c'est un peu plus imagé que peut-être les autres évangiles. Donc, je choisirais celle-ci. Merci. Et vous ? Non, on fait toujours un tour après et on continue. Et puis comme ça permet de dire des petites choses. Alors, ce vendredi, c'était plutôt « Quel est ton animal préféré ?» Ça avait un lien avec le jeu du début. Là c'était un peu autre chose. Donc voilà, on se réjouit avec Marie de partager ce message aujourd'hui. Comme ça a été dit, ce sera en deux parties d'un éclairage différent. Et on se réjouit d'apporter chacun notre touche, et puis après aussi de vous rendre acteur et actrice. Marie va pas mal en parler de l'histoire de Moïse. Je vais revenir sur un point où, quand le peuple a été libéré d'Égypte, ils étaient dans le désert, et pendant le désert, s'ils voulaient avoir une rencontre avec Dieu, où Dieu était accessible, ça passait toujours par quelqu'un ou par un lieu spécifique, le tabernacle. Et après, donc des années après, Jésus est venu sur terre, il a rencontré le monde, les disciples, et je vais en parler un peu plus précisément, puis après, avant de monter au ciel, il a promis le Saint-Esprit consolateur qui est là avec nous chaque jour. Et puis, c'est pour dire que Dieu, il est là, il est accessible pour tous en tout temps. On n'a pas besoin d'aller dans un endroit précis, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour qu'il soit là. Dans notre chambre, il peut être là. Et Dieu, il désire prendre du temps avec toi. Il faut juste lui en donner. Il faut juste lui en donner. Et j'ai envie de revenir sur ce point central où Marie va bien plus préciser sur le peuple qui était en Égypte et puis qui a changé. Il y a comme des tournants comme ça qu'on voit dans la Bible où Dieu, en fait, est à l'initiation. Où Dieu, il est là dans un peu un carrefour de vie, si je peux appeler ça comme ça. C'est un endroit où soit on doit prendre à gauche ou à droite, ou on ne sait pas trop où aller, et Dieu, il initie un peu toutes des choses. Il y a par exemple Abraham, lorsqu'il est parti vers le pays inconnu. Il y a Samuel, quand il choisit David comme roi. Salomon, lorsqu'il a choisi la sagesse. Jonas, quand il était censé aller à Ninive. Il y a Marie, qui accepte de porter Jésus dans son ventre. Pierre, lorsqu'il va prêcher à des non-juifs. Et Paul, lors de sa conversion. Puis la liste, elle est encore longue, longue, longue. Et Dieu, il peut vraiment nous impacter dans notre vie, aujourd'hui, actuellement. On peut se retrouver dans des endroits un peu comme des carrefours de vie, comme ça a été dit, pour changer de job, pour changer de place au travail, choisir un nouvel appartement, se mettre en couple, par exemple, changer de voiture, prendre sa retraite anticipée, destination de vacances, enfin, toutes des choses plus ou moins importantes, mais c'est des carrefours où il faut prendre une décision. C'est un carrefour où il faut prendre décision. Et là, justement, je vais parler du fait d'aller vers Dieu dans ces carrefours. Puis avant, je fais juste une petite aparté. Dans ces situations de vie, j'ai remarqué que parfois, on utilise un peu Dieu que quand on en a besoin. Un peu comme une roue de secours, si vous voulez. Un peu comme une carte joker qu'on garde dans la main et quand on est dans l'embarras, ben, ça peut nous débloquer d'une situation. Un peu comme un peu une solution qu'on a dans la poche, qu'on a sous le coude. Et quand on se sent dans une situation un peu comme dans un carrefour, je voulais vraiment nous encourager à pas seulement venir vers Dieu à ces moments-là, à ces moments où on a besoin de lui, où on se dit « Ah ben, qu'est-ce que je dois faire? Quelle décision je dois prendre ?» mais à le prendre vraiment, vraiment quotidiennement. Parce que Dieu, il ne veut pas juste être un Dieu de solution. Il désire vraiment être un Dieu de relation. Il désire pas juste être une relation mode d'emploi. Vous savez, comme certains collègues, on va vers eux parce qu'on sait qu'ils vont pouvoir nous aider. On n'a pas trop de contact avec eux, on va et puis on leur pose juste 2-3 questions, ils vont pouvoir trouver le problème. Ou bien cette personne qui est dans la classe, qui sait toujours dans quelle classe on doit aller, quels sont les devoirs, quelle est l'heure du rendez-vous. C'est un peu les seuls contacts, qu'on a avec elle, avec lui. Mais Dieu, il ne veut pas juste être un mode d'emploi, il veut être un véritable ami. Jésus, il a une relation avec les disciples vraiment d'amitié. On voit dans Jean 15:15, où il dit « Je vous ai appelé ami ». Et ces derniers temps, j'ai fait un peu une rétrospective de mes amitiés et j'ai réalisé que j'avais comme 2 types d'amitiés. J'avais des amitiés avec qui on a passé vraiment du bon temps. Et à chaque fois qu'on se voit, on se remémore ces moments. On se remémore les bons souvenirs qu'on a, les choses drôles comme tristes qu'on a vécues ensemble, les misères qu'on a vécues, et puis c'est toujours des bons moments, on rigole bien, et c'est chouette. Et il y a d'autres relations amicales où on a vécu aussi des bons moments, on se les rappelle de temps en temps, mais on vit toujours quelque chose dans le présent. Il y a un peu comme deux situations, une où on vit une amitié un peu dans le passé, qui est basée sur ce qu'on a vécu avant, et à chaque fois qu'on se voit, on se remémore les bons souvenirs, et d'autres où en fait, oui, ça peut arriver de se remémorer des souvenirs, c'est pas mauvais, mais où là, on vit vraiment quelque chose, on fait des activités, où c'est bien plus que juste revenir sur ce qu'on a vécu. Et Dieu, c'est pareil. Il a envie d'une relation d'un peu plus de « Ah, c'était bien. Ah, ça me manque. C'était le bon temps, la belle époque. » Il veut plus, il veut quelque chose d'actuel, quelque chose qui soit vraiment quotidien, où on construit une relation. Et on voit que Jésus, il faisait souvent ça dans la Bible, il allait souvent à l'écart, prendre un temps à l'écart. Et j'aimerais revenir sur ces temps. Et Jésus, il marchait de ville en ville après ses 30 ans, quand son ministère a commencé. Il n'était pas toujours chez lui. Il n'était pas toujours dans la maison de ses parents, de sa maman, avec sa chambre, avec peut-être un petit lieu secret où il pouvait prendre du temps avec Dieu, avec son Père. Jésus, il était un peu itinérant, il marchait de lieu en lieu, et les lieux mis à part, c'est là où il n'y a personne. Donc, il allait simplement dans le désert, il allait dans la montagne, et on peut voir ça dans la Bible, notamment dans le désert, où il se lève, il y va, ses disciples le cherchent partout, puis après, ils le retrouvent dans Marc 1, et ils vont prêcher, Jésus va prêcher dans les différents villages. Ou bien quand il s'est retiré dans le désert pour prier, un peu comme un endroit de ressourcement après avoir été dans une foule au contact de personnes dans Luc 5. Il y a beaucoup de passages où il va dans la montagne. Il va dans la montagne pour prier à l'écart. Justement, je regarde le verset où c'est noté ça dans Matthieu 14, 23. Jésus s'en alla à la montagne pour prier à l'écart. Et plus loin de verset après, s'écrit « À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. » Ce qui insinue que Jésus a pris du temps toute la nuit. En tout cas, il est allé à l'écart. Les disciples étaient sur le lac, puis après, il les a rejoints. Il y a aussi d'autres histoires où Jésus, il a aussi passé toute la nuit à prier avant de choisir ses disciples. Il était sur la montagne, ou d'autres fois, c'était simplement à l'écart. Dans Luc 9, il demande aux disciples « Qui suis-je ?» et ils ont eu la révélation du Messie. Par exemple, là, on voit qu'il était à l'écart. Et 8 jours après avoir demandé aux disciples de ne pas dire qu'il était le Messie, Jésus, il prend Pierre, Jacques et Jean et ils vont sur une montagne où ils prient. Et c'est là où se passe la transfiguration, j'y parlerai un peu après, où ils se retirent, plusieurs fois, ils se retirent seuls à la montagne. Ils s'éloignent à la montagne d'un jet de pierre des disciples sur le mont des Oliviers juste avant d'être arrêtés pour la crucifixion. Enfin bref, je pourrais ajouter plein d'exemples, mais ce qui est important, ce que j'ai envie qu'on en retire, c'est que Jésus, il prenait des temps de prière où il était isolé. Ce n'était pas seulement le cas, hein. On voit plein de fois où il prie avec ses disciples, il prie avec des gens, et voilà. Mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Jésus s'isolait? Pourquoi Jésus, il allait seul prendre un temps? Alors, la réponse évidente, pour être seul, simplement, qu'on ne puisse pas l'écouter, qu'il ait ce moment d'intimité, ou comme c'est noté dans Matthieu 6:6, « Mets-toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Jésus, il parle du lieu secret, là où on peut rencontrer Dieu. Un lieu un peu où on va à l'écart pour être seul, seul à seul avec lui. Un cœur à cœur. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que Jésus il faisait quand il était seul avec Dieu? Qu'est-ce qu'il faisait pendant toute la nuit avec Dieu? Et on voit que souvent, c'est noté qu'il priait. Et il y a comme 6 types de prières différentes que Jésus faisait. Il y a la première, c'est un peu des prières d'intimité, où Jésus s'isole, où c'est pour être seul. Après avoir été dans la foule, notamment, il fait ça, où il se ressource avec Dieu. Il y a des prières d'intercession pour les autres, où il dit « Merci Seigneur pour les humbles », il remercie les humbles. Il prie aussi dans Jean 17, avant d'être arrêté, où il prie pour qu'on ait la vie éternelle. Il y a la prière pour prendre des décisions importantes, où il prie toute la nuit sur la montagne avant de choisir ses disciples le matin. Il y a une prière aussi un peu où c'est un combat spirituel, juste avant d'être arrêté pour la crucifixion, justement, où là, il prie, il demande même à ses disciples de prier avec lui pour qu'il ne fasse pas sa volonté à lui en tant qu'humain, mais la volonté de Dieu. Il y a aussi les prières expérimentales. Alors, ce n'est pas des prières où on expérimente des choses, où il y a des expériences et puis on teste des choses. C'est plutôt des prières où la présence de Dieu est tellement forte que sa gloire apparaît. On le voit justement quand il allait avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne à la transfiguration, où c'est noté pendant qu'il priait, donc Jésus, l'aspect du visage de Jésus changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Ensuite, Dieu, il y avait une nuée, et Dieu a dit aux disciples d'une voix audible, « Jésus est mon fils. » Il n'a peut-être pas dit exactement ça mot pour mot, mais on voit que là, Jésus a prié et la présence de Dieu était tellement forte que ça se voyait. Que ça se voyait et même ils l'ont entendu d'une voix audible. Et finalement, il y a les prières de remerciement. Et c'est là où justement Jésus il remercie son Père d'avoir révélé les choses aux humbles et où aussi il fait cette prière si forte. Il remercie Dieu d'avoir guéri Lazare, d'avoir ressuscité Lazare avant même d'avoir prié. Et ces 6 types de prières, j'avais envie de les souligner, de les voir, juste pour qu'on sache, quand il était seul et qu'il se mettait à l'écart, il priait. Mais il y avait plusieurs types de prières, il venait. Et la prière, c'est un peu une solution à plusieurs choses. Et on remarque surtout que Jésus, il va prier à des moments clés, des moments carrefour un peu de sa vie, avant de choisir ses disciples, avant de marcher sur l'eau, avant de demander aux disciples « Qui suis-je ?» et que Pierre réponde qu'il est le Messie, avant la transfiguration justement sur la montagne où la gloire de Dieu était tellement forte, ou bien après s'être retiré de la foule pour éviter qu'il le proclame roi. Et Jésus, il s'isolait avant les décisions importantes, justement dans les moments carrefour, mais pas seulement, aussi régulièrement avec Dieu, pour prendre ce temps, cette amitié justement avec Dieu. Et lorsqu'on prend des temps avec Dieu, ça nous donne comme une vision un peu périphérique, ça nous donne comme une vision claire. On prend du recul, comme ça nous permet de ne pas juste être tête dans le guidon, mais de prendre du recul, et puis Dieu nous aide à avoir la sagesse tous les jours, il nous aide à avoir une vision un peu comme d'auteur, avec H, où c'était un peu, je voyais comme si on priait, et puis qu'on avait une vision, la vision d'un oiseau un peu sur la situation, où on sait ce qui vient après, où même si on ne le sait pas, on arrive à prendre les bonnes décisions. On arrive à prendre les bonnes décisions. Et on aborde nos journées différemment, nos défis différemment, et nos carrefours différemment. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin à prendre des temps avec Dieu régulièrement, et pas juste au carrefour, pas juste au moment où on a besoin de lui, mais que vraiment tisser cette amitié. Et juste avant de terminer, avec Shelley, on a déménagé cette semaine, et qui dit déménagement dit trier des affaires, et j'ai retrouvé une feuille dans ma table de nuit où je posais simplement la question en haut de la feuille, « Dieu, quel est ton plan ?» Quel est ton plan ? J'ai écrit la date, c'était le 5 septembre 2022, donc il y a presque pile 3 ans, et Dieu m'avait répondu, « Ne te fie pas au plan, donc à tous les plans, ne te fie pas au plan, retourne cette feuille et passe du temps avec moi, du temps de cœur à cœur. Suis-moi, peu importe dans quelle direction, la direction que tu prendras en me suivant te mènera à mon projet. » Et je pense réellement que c'est ce que Dieu veut vous dire ce matin. C'est ne te fie pas au plan. Il n'y a pas besoin d'avoir un plan. Juste retourne cette feuille, retourne tes questions. Prends du temps avec Dieu, des temps de cœur à cœur. Suis-le là où il dit d'aller. Suis-le, peu importe dans quelle direction, Dieu te mènera à son projet. Dieu, il t'ouvrira les portes ou te laissera ouvertes. Dieu, il te fermera les portes. Il y a tellement une puissance dans le oui que Dieu nous donne et aussi dans le non. Et vraiment juste de quand on se trouve dans un carrefour de la vie, et peut-être qu'on pourrait poser, moi c'est ce que je fais, poser des questions, Dieu, quel est ton plan, quel est ton plan? Et c'est bien et c'est juste le mettre en premier. Mais juste de dire, ben, Dieu, j'ai envie de passer du temps avec toi. Aide-moi à avoir du recul sur cette situation. Aide-moi à avancer toujours plus. Et là, c'était un aspect un peu plus individuel des carrefours de vie. Et là, Marie va vous apporter plutôt un éclairage sur l'aspect communautaire. Et donc, je t'invite à monter sur scène.
Merci John. C'est fou parce que Jonathan m'avait déjà dit ce qu'il allait partager ce matin. Mais là, Dieu m'a montré que c'était une des choses qu'il a dites, c'était une réponse à une de mes questions que j'avais avec Dieu. Et du coup, je trouve ça trop chouette. Donc, je suis contente. Je voudrais juste partager avec vous la suite. Du coup, là, John nous parlait des côtés individuels, de qu'est-ce qu'on peut traverser en tant que personne dans la vie. Et je trouve intéressant de aussi voir qu'est-ce qui se passe du coup et comment ça peut impacter les communautés dans lesquelles on est, les groupes dans lesquels on est, nos contextes. Parce que je pense vraiment que Dieu ne travaille pas juste au niveau des personnes individuelles, mais il veut aussi, il a aussi des plans pour son peuple et puis pour son Église. Et du coup, je vais prendre un verset qu'on va suivre tout le long de cette partie. C'est dans Matthieu 13, 33. Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine, si bien que toute la pâte lève. Ça marche. Du coup, dans ce verset, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect du levain, il y a l'aspect de la pâte, il y a l'aspect du royaume de Dieu. Et une des visions, en tout cas, que j'ai de ce verset, c'est que quand Jésus met le levain dans la pâte va lever. Et en fait, le royaume de Dieu, il est contenu, c'est ce levain, que quand il le met dans un certain contexte, eh ben, il se passe quelque chose. Et je crois que ce « il se passe quelque chose », qui est le royaume de Dieu, est-ce que Dieu, il a envie pour nous, il a sa volonté pour nous, qu'on soit libre, qu'on soit guéri, que les atmosphères dans notre famille, elles changent, qu'il y ait de l'encouragement qui naisse, qu'il y ait de la joie qui revienne. Et ça, je pense que c'est son royaume. Et du coup, il utilise des personnes, des individus, et il veut qu'on puisse libérer le levain qu'il a mis en nous dans ces contextes. Et je voudrais vous proposer de prendre ce verset et de l'appliquer à l'histoire de Moïse. Attention. Donc, on a le levain qui est l'agent actif, qui va faire que la pâte va lever. Ensuite, on a la pâte qui est le contexte dans lequel le levain va être mis pour qu'il se passe quelque chose. Et le contexte, ça peut être plein de choses. Ça peut être notre famille, notre lieu de travail, nos amis, un domaine qui nous tient à cœur, par exemple, la musique, l'art, la famille, les enfants. Et le royaume de Dieu, ça peut être plein de choses. Et du coup, on va voir dans l'histoire de Moïse, un petit bout, parce qu'elle est longue, son histoire, ces éléments ensemble, qu'est-ce que ça donne ? Donc, on a le levain, l'agent actif, que je vois comme étant Moïse. Je ne sais pas si vous savez comment ça se crée du levain. J'ai fait des recherches. En fait, c'est hyper compliqué. Il y a tout un processus de maturation, tout un processus pour que le levain il soit mature et qu'on puisse l'incorporer dans la pâte. Et je trouve fou parce que Moïse, il est passé par beaucoup de choses. Déjà, c'est un des survivants dans le massacre qu'il y a eu en Égypte des bébés garçons. Il a été élevé par sa culture d'accueil, donc les Égyptiens, alors qu'il est israélite. Quand il va retourner voir les Israélites, il voit ses frères de race qui sont opprimés par sa culture d'accueil. Je pense qu'il y a de quoi vivre des processus assez intenses au niveau identitaire et appartenance. Et dans tout ce qu'il a vécu, finalement, Moïse a dû fuir l'Égypte. Et il s'est retrouvé à Madian. Là, il s'est marié. Et voilà où il en est. Et en fait, je vois un peu tout son parcours, c'est un peu tout ce qui a été travaillé en lui, tout ce qui a fermenté, si on prend l'image du levain. Et il en est arrivé à un stade où quand Dieu l'a rencontré au buisson ardent, c'est qu'il est prêt. Dieu, il sait qu'il est prêt. Donc, on a notre levain, Moïse. Ensuite, on a notre pâte, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est opprimé, il est en esclavage en Égypte, et puis il crie à Dieu, il est en souffrance, il crie à Dieu. Il a envie de voir les promesses qu'il avait faites à Abraham se réaliser pour eux aussi. Et dans cette situation, on peut se demander, enfin nous on connaît l'histoire, mais quel est le royaume de Dieu dans cette situation ? Et j'ai été frappée parce que dans le texte du buisson ardent, Jésus, Dieu nous parle de tout ça. Donc je vais vous le lire. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai même vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Là, Dieu il parle de la pâte du peuple d'Israël qui est opprimé, qui est en esclavage. Il parle de Moïse en lui disant « Va et fais sortir d'Égypte, que le levain puisse être incorporé à la pâte. » Et il parle de son royaume. Et là, dans ce contexte, son royaume, c'est son rêve pour son peuple, de le faire sortir d'Égypte, de le conduire dans un pays qui est vaste, grand, beau, qui regorge de lait et de miel. Là, on a le plan. Après, on a tous les éléments. Comment est-ce qu'ils vont se mettre ensemble ? Et là, Moïse, il a un choix à faire. Est-ce qu'il va être d'accord d'être ce levain incorporé dans le peuple d'Israël pour que Dieu puisse manifester son royaume et exprimer son cœur? C'est un peu la question qui se pose. C'est un peu ce qui va faire le carrefour dans l'histoire de ce peuple. C'est cette décision que Moïse va prendre. Est-ce qu'il va accepter d'être le levain? Et ça n'a pas été une décision facile pour Moïse. Il y a eu tout un débat avec Dieu où il a posé beaucoup de questions. J'ai un peu paraphrasé ce que lui, il a dit, Moïse, à Dieu. Et je trouvais hyper intéressant. Je voulais lire comme ça. Une des premières réactions, c'est « Moi ? Je ne peux pas ?» Ensuite, « Mais qui es-tu ? Qui est-ce que je vais dire que tu es à ce peuple d'Israël ?» Et ensuite, « Personne ne va me croire. Qui c'est qui va m'écouter ?» Ce n'est pas possible. Pour finir, « Je t'en supplie, envoie quelqu'un d'autre. » Quand j'ai lu tous ces débuts de paragraphes dans cette discussion que Moïse a eue avec Dieu, j'ai été tellement frappée par l'humanité de cet homme et par la ressemblance avec des questions et des doutes que moi-même j'ai quand Dieu me demande quelque chose. En mode, mais personne ne va me croire. Ou en mode, c'est pas possible. Impossible. Moi, aller parler au Pharaon, lui dire de faire sortir le peuple. Mais c'est une blague. Et c'est vrai que quand Dieu nous demande de faire des choses, ça a l'air tellement fou qu'on se dit, mais c'est pas possible. Et ça peut faire peur. Et là, envoie quelqu'un d'autre. Il a tellement pas envie qu'il dit, envoie quelqu'un d'autre. Mais il se trouve que Dieu a placé dans Moïse le levain qu'il fallait pour faire monter cette pâte en particulier. Et si Moïse refuse, ben la pâte ne monte pas. Finalement, Moïse, après ce moment, il retourne vers son beau-père et il lui dit « Il faut que je retourne vers mes frères de race en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Quand j'ai lu ça, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, cet homme qui a vécu tout ce qu'il a vécu, enfin il était posé à Madian. Il avait une femme, il avait un contexte, il avait ses moutons ou ses brebis, je ne sais plus. Et là, il doit retourner, là où tout a commencé, si on veut. Et je me suis dit, quel pas de foi il a fait et quel amour il avait pour Dieu en disant, ok, je vais être ce levain, je vais aller en Égypte et on va libérer le peuple. Et là, c'est là que tout commence, en vrai. Parce qu'on arrive dans la phase du pétrissage. Parce qu'une fois que le levain il est arrivé dans la pâte, c'est pas juste, c'est super, il faut encore pétrir la pâte. Et pour moi, je vois ce moment-là, quand Moïse il arrive en Égypte, il va parler avec les responsables du peuple d'Israël. Et là, les responsables, ils sont « Youhou, trop bien, Dieu existe, c'est trop cool ». Ensuite, il va parler à Pharaon. Pharaon est là, non, tu me racontes n'importe quoi. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? C'est qu'il a augmenté les travaux du peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël, il était là, mais en fait, tu viens pas pour nous libérer, tu viens pour nous tuer. Et là, Moïse, de nouveau, mais c'est pas possible, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, je ne suis pas capable. Bref, la phase de pétrissage, c'est le moment où on est là où on va être, dans notre pâte, et en fait, ça pétrit. C'est-à-dire qu'on traverse des doutes. C'est que là, dans le concret, là, matin, il y a des choses auxquelles on ne s'y attendait pas. Je ne pense pas que Moïse soit attendu à ce que le peuple, finalement, soit fâché contre lui. Il s'est dit, ils vont être peut-être de mon côté. Le peuple et Pharaon n'étaient pas trop de son côté. Enfin, toute cette phase de pétrissage qu'on peut vivre jusqu'à ce qu'on voit le royaume arriver, la promesse s'accomplir, ça peut prendre du temps. Et en fait, moi, je crois que ça m'a soulagée de voir ça parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, Dieu, il fait vraiment des processus. C'est pas parce que dans ma vie, il n'y a pas tout qui se fait en un clin d'œil que ça veut dire que c'est pas normal. Il y a une phase de pétrissage. Et je pense que cette phase, c'est un peu une phase de préparation où le peuple a pu voir Dieu agir. Parce qu'il y a eu les plaies d'Égypte et le peuple a vu que Dieu les a protégés de ces plaies parce qu'ils n'étaient pas touchés par elles. C'était que les Égyptiens. Et je pense que ça a dû être assez fort de se voir en tant que peuple protégé par un Dieu qui fait subir d'autant horribles choses à un autre peuple. Et à la fin de ce pétrissage, en ce jour précis, le Seigneur fit sortir les Israélites d'Égypte en bon ordre. Waouh! C'est fou, hein? Et en fait, je suis émerveillée de la manière dont Dieu travaille. Parce que non seulement il transforme nos cœurs, comme l'a dit Jonathan, où on peut avoir une relation avec lui, où on peut vivre quelque chose avec lui, il nous fait grandir, il nous montre plus qui il est. Mais en plus de ça, son plan est encore plus grand parce que ça nous dépasse encore plus. Moïse, c'est un homme, et Dieu, à travers cet homme, a démultiplié son pouvoir pour faire sortir un peuple entier d'esclavage. Et en plus, avec de la richesse. Et en fait, là je me dis, le royaume de Dieu, c'est ce qui nous est complètement, qui nous semble impossible, qui est plus grand que nous, ça nous dépasse. Et en revanche, ce qui ne nous dépasse pas, entre guillemets, c'est qu'on peut être sûr que Dieu il a mis un levain qui veut faire grandir. Et la question un peu, c'est, ok, on a ses pâtes, on a ses levains, et on a le royaume. Pour que ce royaume puisse se manifester, Moïse a dû quitter Madian, aller en Égypte. Il y a eu le pétrissage, et ensuite ils ont pu sortir. Bon, après, l'histoire ne se finit pas là, on sait ce qui se passe encore dans le désert après. Mais moi, je vais m'arrêter sur ce passage-là. Et j'étais étonnée parce que Moïse a dû faire un choix. Et je n'avais pas réalisé l'importance, en fait, de ce choix. De dire, OK, je vais aller. Seigneur, utilise-moi comme levain dans ce contexte-là. Je suis OK. Et j'ai réalisé que si on n'était pas OK, Dieu, il attendait notre consentement. Et je me suis dit, mais Dieu, il est tellement respectueux. Il est tellement doux et il est tellement bon. Il dit, certes, va, mais Moïse, il avait le choix. Et face à autant de bonté, je me dis, waouh, mais en fait, j'ai envie de dire oui alors. Parce que je sais qu'il est bon et il me respecte. Et surtout quand on sait que l'issue, c'est que le peuple, il est sorti. Je me dis, OK, ça veut dire que Dieu, il a un plan qui dépasse ce que je suis et il a un plan pour libérer des gens. Et c'est plus grand que moi et ça permet à ce que d'autres personnes puissent goûter aussi ce que moi, j'ai reçu. C'est-à-dire que oui, j'ai reçu Jésus et il a fait des grandes choses dans ma vie. Donc, il y a un levain qui est là et je peux dire à Dieu, OK, ben maintenant, le levain, il a maturité. Je peux aller dans des contextes et tu peux libérer ton royaume pour que d'autres personnes puissent aussi goûter à ce royaume. Et par rapport au fait qu'on n'est plus dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, je pense que cette puissance, elle est encore décuplée parce qu'on a tous accès à Jésus. On a tous accès à qui il est et ce qu'il a fait. Donc là, il y avait un seul homme qui avait ce tête-à-tête avec Dieu. Et je me dis, là, on est tous ici à avoir cet accès avec Dieu. Oh, bref, je trouve ça tellement beau. Et je me dis, mais c'est dingue. Ça veut dire qu'il y a tellement de gens, de contextes, qui attendent que de recevoir la bonne nouvelle, la joie, la paix, la guérison, et on est tous là, et on a tous ce levain. Et j'ai envie de donner un encouragement, de vous dire, ben peut-être que vous êtes dans une phase de pétrissage. Peut-être qu'en fait, vous vous sentez être un levain en maturation. Peut-être que vous vous demandez dans quel contexte est-ce que Dieu va vous envoyer. Peut-être qu'en fait, vous êtes aussi une pâte qui a besoin de recevoir le levain. Et dans n'importe laquelle de ces situations où vous vous trouvez, j'ai envie de vous encourager parce que l'issue, on la connaît. L'issue, c'est que le peuple il est sorti d'Égypte. Et donc, l'issue, c'est que le royaume de Dieu va s'accomplir. Et voilà, c'est beau. Hein et en fait, j'ai pas envie qu'on laisse retomber le soufflet. Donc, à chaque fois au groupe des jeunes, on a toujours un moment un peu pratique parce que ça permet d'ancrer les informations et de vivre les choses, pas juste avec notre tête, mais avec nos émotions, avec nos corps. Et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est... Je vous explique, puis après on va en pratique, ça joue. Ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que déjà, vous posez vous-même un peu la question aussi, comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Est-ce que vous avez l'impression d'être une pâte qui attend désespérément le secours de Dieu, où vous criez à Dieu, vous avez besoin qu'il agisse. Et si vous situez plutôt du côté du levain, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous êtes OK, et est-ce que vous croyez que ce levain est en vous et qu'il va agir quand vous serez dans le contexte? Parce que le peuple, il ne s'est pas libéré avant que Moïse arrive sur place. Donc est-ce que vous croyez que ce levain est là parce que Jésus, il est en vous? Et je vous laisse quelques secondes. Ouh, ça ne s'est pas affiché. Pardon. Voilà, vous avez les questions comme ça. Ça joue. Et pour le moment pratique, j'avais envie qu'on se mette au défi d'expérimenter ce que c'est que d'être un levain, les uns pour les autres. Parce que je crois que chacun d'entre nous ici sommes et une pâte et un levain. Et qu'on a besoin de recevoir et qu'on peut aussi libérer le royaume dans la vie de quelqu'un. Et ce qu'on avait envie de vous proposer, Donc vous pouvez vous lever déjà pour commencer. Ce qu'on avait envie de vous proposer, c'est que vous puissiez prendre un petit moment d'écoute avec Dieu. Et on avait deux idées à vous proposer. Soit vous pouvez donner une parole d'encouragement à quelqu'un. Ou si vous avez envie d'écouter Dieu et de lui dire, Seigneur, est-ce que tu as envie que je dise quelque chose à quelqu'un de ta part ? Et d'avoir le courage d'aller vers la personne que vous avez reçue et de le lui dire. Et je pense que on ne sait jamais, en fait, on n'a pas conscience de ce qu'une parole peut faire chez quelqu'un. On n'a pas conscience de ce qu'un mot, un encouragement peut faire dans la vie d'une personne. Je pense que ça peut avoir le même effet que ce peuple qui sort d'Égypte. Quand vous dites à quelqu'un qui, par exemple, est en train de douter sur, je ne sais pas, sur sa valeur, puis que vous lui dites, en fait, Dieu, il te voit comme un diamant, je ne sais pas si on se rend compte de la puissance que ça a dans la vie d'une personne. Et je crois que j'ai envie de le comparer au fait de sortir, que ça sorte le peuple d'Égypte. Et voilà, c'est un peu le défi qu'on avait envie de vivre avec vous aujourd'hui, pour qu'on puisse déjà s'entraîner entre nous, comme Shelley l'a dit, on est en famille, ça fait un peu moins peur. Et pourquoi pas encore après le vivre à l'extérieur d'ici, dans nos familles, notre travail, et dans les contextes dans lesquels Dieu vous a placé. Est-ce que ça joue ? Donc vous pouvez prendre un petit moment avec Dieu. On ne va pas faire trop long, donc on va mettre un petit timer, ça va être 5 minutes à peu près. Et de voir qu'est-ce que Dieu il a envie de vous dire, qu'est-ce qui vous met à cœur, et que vous puissiez aller le partager avec votre parole. Et la parole, on sait que c'est un grand effet. Et j'ai envie de croire qu'il y aura plein de choses qui vont sortir d'Égypte là, parce qu'on a parlé. Amen. Oui. Donc, je ne sais pas du tout comment se passe ce timer. Si même... Ok, Jonathan me dit pouce. Oh, fantastique. Alors, je vous laisse avec Dieu. Moi aussi, je vais aller écouter Dieu. Et soyez encouragés par ce qu'on va vivre et ce que vous allez recevoir.
Les 5 minutes arrivent à la fin. On s'excuse, c'est un temps court, un temps restreint. N'hésitez pas à aller après pour... Parlez, encouragez les personnes. Et puis si d'ailleurs vous n'avez rien reçu, ce n'est pas que Dieu vous boude, ce n'est pas que vous êtes mis de côté. C'est juste qu'il y a peut-être quelque chose qui va venir, mais après, peut-être vous personnellement avec Dieu ou peut-être de quelqu'un d'autre. Mais ne vous inquiétez pas. Et je vais juste prier pour remettre ce moment. Et Seigneur, je te remercie pour ce qui a été partagé. On a envie d'être toujours plus proche de toi quotidiennement, Seigneur. On a envie de maturer dans ta présence pour être un bon levain. On a envie d'être un agent actif. On a envie d'être là pour faire réagir la pâte, Seigneur, pour que ton royaume puisse descendre ici sur terre. Et Seigneur, on a aussi envie d'être une pâte pour que tu puisses venir nous travailler. Pour que tu puisses, Seigneur, peut-être mettre des levains sur notre chemin. On a envie d'être malléable, Seigneur, à toi, à ta présence et ce que tu as envie de nous dire. En ton nom. Amen. Amen.